auditeurs, bonjour. Depuis deux semaines, nous parlons du chant grégorien avec Frédéric Rentière, chanteur médiéviste, chef de chœur, praticien, théoricien. Bonjour Frédéric Rentière.
Bonjour Michel.
Nous avons évoqué lors des semaines passées, les émissions passées, la notion même du chant grégorien, pourquoi chanter lors de la liturgie au Moyen-Âge. Puis la semaine dernière, vous nous aviez parlé du pouvoir du chant grégorien et on a vu la filiation avec la musique antique.
Oui.
Alors, justement, lors de la dernière émission, vous nous aviez fait entendre un magnifique chant féminin, Custate Evidete, sur le psaume 33, et nous avions entendu une surprise sous forme de deux voix. Alors, quand on parle du chant grégorien, spontanément, on pense à une seule ligne mélodique.
Oui.
Mais aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de la polyphonie, en tout cas, le chant à deux voix. Pourquoi chanter le chant grégorien à deux voix?
Oui. Alors, effectivement, ce qu'on appelle le chant grégorien aujourd'hui est considéré comme un chant monodique, c'est-à-dire à une seule voix, ce qui est faux historiquement, puisque dès le milieu du IXe siècle apparaissent les premiers traités sur la polyphonie liturgique, qui étaient certainement à pratiquer déjà depuis le VIIe siècle.
Ah oui. Et on a des traces de ça, des traces écrites?
Alors, on n'a pas vraiment de traces écrites, mais les musicologues considèrent que ce traité n'est pas à l'origine de la pratique polyphonique, mais qu'au contraire, il est un témoignage qui est arrivé bien après.
Le traité,
Musica et Scholica, en fait, un double traité, Musica et Scholica in Cariadis, un manuel de musique et un manuel scolaire, en fait, d'études théorique, en fait, des sons.
Qui lui date donc du 9e siècle.
Du milieu du 9e siècle, oui.
D'accord. Et il me semble que vous avez travaillé un peu sur ces écrits.
Oui, tout à fait.
Alors, d'où est-ce que l'idée de chanter à deux voix naît? Parce que c'est vrai que quand on considère des traditions encore vivantes dans différentes cultures musicales,
oui.
Le phénomène de la polyphonie existe, hein, c'était la grande découverte des ethnomusicologues, mais au fond, la polyphonie en tant que telle, c'est-à-dire vraiment une égalité des voix réelles,
oui.
Il est aussi bien admis que c'est un phénomène purement occidental, il l'a sujet que dans la musique occidentale. Alors, avec vous, Frédéric Rentière, nous sommes à la lisière, je dirais, de ce passage.
Exactement, oui.
Entre la tradition monodique et polyphonique, et comment l'idée donc de chanter à plus d'une voix naît?
En fait, paradoxalement, pour les théoriciens, il était très clair que chanter à une voix, c'était déjà chanter en polyphonie. Alors, je m'explique. C'est que, justement, chaque son, finalement, en lui-même, déjà contient plusieurs sons. On le sait, aujourd'hui, on a démontré que chaque son contient plusieurs harmonies, qu'on va le voir tout à l'heure, justement, en détail. Mais les rapports qui existent entre chaque son de la mélodie, eux-mêmes, créent une harmonie. Et ça, cette idée est très ancienne, elle est effectivement antique et a été bien transmise par les compilateurs de l'époque carolingienne et même bien avant.
Mmh.
Donc, en fait, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont simplement imaginé ce que ce serait que de rajouter un deuxième son au premier son qui serait, en fait, juste, ne serait-ce que l'amplification d'un son que contient le premier son, le son fondamental, le son du chant grégorien. En fait, c'était ça l'idée à cette époque-là.
Peut-être aussi on peut dire que on parle du chant grégorien, mais ça se passe dans des lieux précis.
Alors effectivement, l'acoustique les a certainement amenés à ces déductions.
Oui.
C'est vrai que le phénomène d'écho et surtout de la réverbération fait que pendant qu'on est en train de chanter un son, on entend en retour le son qu'on a chanté il y a 2 ou 3 ou 4, 5 secondes selon les acoustiques.
Oui,
donc on est déjà
en
polyphonie quand on chante.
Oui, c'est comme si on appuyait sur la pédale du piano et on jouait à vous dirais-je maman, comme ça avec une seule main, mais toutes les notes de la mélodie sont contenues, on a comme ça des accords qui s'amplifient.
Exactement.
Alors, vous voulez dire c'est une prise de conscience à partir du phénomène acoustique.
Oui.
Qui incite à chanter, à vraiment modéliser, à chanter à deux voix,
voilà.
Et plus.
Donc effectivement, ce qui est extraordinaire et ce qui est peut-être vraiment un tournant dans l'Occident, c'est de ne se pas contenter justement de ce phénomène d'écho,
mm-hmm.
Et de se dire ben, c'est déjà la polyphonie, c'est la musique des anges justement, cette voix qui se détache, qui vient de nous mais qui nous revient de loin. Les théologiens souvent se sont contentés d'une explication comme ça. C'est la voix des anges, c'est la voix du ciel qui répond. Là justement, on a voulu vraiment concrètement superposer deux sons. Et ça, c'est effectivement un événement, mais pas un événement au sens où c'est nouveau. C'est simplement l'amplification d'un phénomène naturel. Et c'est comme ça finalement que ça a été expliqué.
Je me permets de faire un petit aparté parce que on a ce genre de phénomène en islam, hein, dans la culture musulmane, dans la construction des mosquées. Oui. Si vous allez à la mosquée, la grande mosquée du vendredi à Isfahan, sous le Iwan, c'est-à-dire cette espèce de grande coupole à semi-ouverte sur l'extérieur, il y a un endroit, une plaque avec cette pierre hein, au sol, et ce lieu précis s'appelle le lieu des sept échos. Parce qu'il suffit de prendre un petit billet de papier, de donner un petit coup de doigt dessus presque, et vous entendez très distinctement au moins sept impacts distincts. Donc on comprend hein, dans différentes religions le phénomène d'amplification, ne serait-ce que pour porter la voix du prédicateur. Mais contrairement à la tradition chrétienne, à ma connaissance dans la tradition musulmane, cette notion de polyphonie ne s'est pas déployée. Oui. Il y a des lignes mélodiques absolument extraordinaires, mais malgré le phénomène d'écho, on n'a pas voulu aller dans cette direction-là et concevoir la polyphonie.
Est-ce que je me demande si ce n'est pas déjà une étape vers le matérialisme. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, tant qu'on est dans le phénomène d'écho, on n'est que dans une polyphonie symbolique, finalement. On a la voix productrice qui engendre le son, et puis on a ce retour, et qui finalement est une voix qui semble ne plus être notre propre voix, c'est une autre voix qui finalement revient vers nous. La particularité effectivement de l'Occident, ça a été de vouloir maîtriser concrètement l'acte et de recréer ce phénomène d'écho, mais cette fois-ci vraiment en contrôlant les deux voix et en les faisant rentrer, interagir en même temps ensemble. C'est ça vraiment qui effectivement est particulier et unique.
Ouais, ouais. Donc deux et ensuite plus.
Après c'est un phénomène exponentiel.
Thomas Tallis qui utilise 40 fois réel.
Oui, alors là effectivement, ça va aller jusqu'à là effectivement.
Alors est-ce qu'on pourrait entendre un extrait? Je crois que vous nous aviez préparé quelque chose, Frédéric Rentière.
Oui, alors donc justement, j'ai dans le premier CD que j'ai pu faire avec l'ensemble Voxinrama, j'ai expérimenté justement cette notion de l'idée qu'une mélodie, une simple mélodie, était déjà une harmonie en elle-même, et de voir ce que ça pouvait signifier que de rajouter ensuite dans un second temps simplement une teneur, ce qu'on appelle un isone, c'est-à-dire simplement deux teneurs précisément, c'est-à-dire deux sons que l'on tient, que deux chanteurs tiennent pendant qu'on chante la mélodie.
Comme une sorte de bourdon en fait.
Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui le bourdon, mais au Moyen-Âge, le bourdon avait une autre signification, mais effectivement ça correspond au bourdon aujourd'hui.
Un son tenu,
voilà, et qui au début faisait partie des premières techniques polyphoniques extrêmement simples, mais qui suffisait à renforcer le phénomène acoustique de résonance.
Donc nous écoutons le Kyrie, donc tiré du Codex Calixtinus.
Alors en fait là c'est un kyrie tropé, c'est-à-dire c'est un kyrie auquel on a rajouté un texte et une mélodie supplémentaire et qui a été effectivement développé, qui a d'abord été chanté, dont on a un témoignage dans le manuscrit de Moissac, et qui ensuite a été repris dans le Codex Calixtinus, les chants du pèlerinage de Saint-Jacques, et qui était traité de manière plus complexe. Mais là, on n'entendra pas cette deuxième étape de la polyphonie. Voilà.
Oui, donc alors nous écoutons les 34 premières secondes de cet extrait. Court extrait, on entendra tout à l'heure la suite de cette mélodie. Mais alors, Frédéric Rentière, Est-ce que le nombre joue un rôle particulier dans cette espèce de conscience des proportions, dans ce juste rapport entre l'homme et le Dieu, le haut et le bas, etc. Quel est le rôle du nombre ?
Alors, tout à fait, le nombre, en fait, va être l'outil, le médium qui va permettre de tout expliquer à cette époque-là, mais ça n'a rien de nouveau en soi, puisqu'on sait très bien que, déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, tout s'expliquait dans les sons par le nombre. Alors, effectivement, le son a un pouvoir double. Il a, comme on a pu l'entendre dans la mélodie, les intervalles qu'on a pu entendre ont un rapport, en fait, sont régis par un rapport de division de nombre. Alors on va justement voir ça de manière précise, c'est-à-dire que dans tout son, dans un son est contenu tous les sons. Alors on va voir comment justement ça fonctionne. Alors Michel, si vous voulez bien, donc vous avez pris... Amenez votre guitare.
Oui.
On va prendre un son d'une corde, alors celle que vous souhaitez. Voilà, donc qui est une corde qui est jouée à vide. Et si on divise, donc là on est vraiment dans les fractions, l'explication mathématique, si on divise cette corde en deux, on va obtenir l'octave supérieure. Voilà, donc l'octave est vraiment contenu dans le premier son, le son grave qu'on a entendu. Voilà. Si ensuite on divise la corde en trois parties et qu'on fait résonner les deux tiers de la corde, on va obtenir l'intervalle de quinte. Donc pour les théoriciens, la quinte était induisait le rapport de deux tiers. Donc c'était vraiment le nombre était vraiment au cœur de l'explication de l'harmonie. Si on divise la corde en quatre parties et qu'on fait résonner les trois quarts de la corde, on obtient l'intervalle de quarte. Puis si on divise la corde en neuf portions égales et qu'on fait résonner les huit neuvièmes de la corde, on obtient le ton plein qu'on peut jouer sur le piano entre les touches blanches. Puis, il existait au Moyen-Âge, question très intéressante, deux sortes de demi-tons. Le demi-ton dit égal, qu'on peut jouer sur le piano entre une touche blanche et une touche noire. Voilà, qu'on a bien dans notre oreille occidentale. Et puis un autre, non pas demi-ton, mais tiers de ton, plus petit, on va entendre le demi-ton, puis tout de suite le tiers de ton. Voilà, donc on entend bien cette différence. Alors c'est une thèse qui est beaucoup discutée, mais effectivement, dans la polyphonie vocale, c'est très courant de faire un tiers de ton à la place d'un demi-ton.
Alors, Frédéric Rentière, on a entendu l'octave, la quinte, la quarte et les secondes. Mais il y a un intervalle quand même très important qui est celui de la tierce. On ne l'a pas entendu.
Ah oui, mais cet intervalle n'est pas une consonance parfaite, Michel. C'est un intervalle instable qui est souvent traité comme ce qu'on appelle une note de passage, c'est-à-dire un intervalle qu'on utilise pour transiter du ton vers la quarte. C'était considéré au XIe siècle, la tierce était encore considérée comme une dissonance, et puis peu à peu elle va être considérée comme une consonance dite imparfaite, c'est-à-dire une consonance sur laquelle on ne peut pas commencer ni finir, mais qu'on peut utiliser en cours de discours musical.
Oui, c'est quand même curieux de voir comment l'histoire de la musique réinitialise les notions. Aujourd'hui, si on pense à la musique de l'Église, le premier instrument qui vient à l'esprit, c'est forcément l'orgue.
Oui.
Or, c'était un instrument attribué au diable à une certaine époque.
Oui. Oui.
Finalement, ce que vous dites, dans cette espèce de privilège ou une couleur accordée vraiment en priorité et utilisée dans le grégorien, ces intervalles de l'octave, de la quinte, de la quarte, c'est aussi ce qui donne cette couleur un peu médiévale. Si je puis me permettre d'illustrer un peu, c'est comme si on jouait sur les touches noires du piano pour évoquer le langage musical de l'Orient, enfin de l'Asie.
Oui.
Eh bien, en jouant avec ces intervalles, on a un peu l'idée d'un chant médiéval. J'ai fait une fausse note, j'ai fait une tierce.
Voilà. Un théoricien médiéval n'aura pas, du haut Moyen-Âge n'aura pas été content.
Voilà. Oui, donc, alors, cette progressive prise de conscience des poids, des significations peut-être symboliques de certains intervalles, est-ce que c'est ça qui va permettre à construire peu à peu ce qui va devenir la grande tradition polyphonique en Europe?
Certainement. Alors, effectivement, c'est chaque strate de l'histoire de la musique montre bien qu'on va vers une complexification, mais qui n'est que finalement l'amplification de phénomènes très simples qu'on vient d'expliquer.
Mais Frédéric Rentière, est-ce qu'il y a des théoriciens ou est-ce qu'il y a des philosophes qui en parlent de cela? Je sais que vous aviez évoqué Saint-Augustin lors des émissions précédentes, vous aviez parlé de Boès aussi.
Oui.
Est-ce que...
Alors, effectivement, ça c'est une question très importante. Au Moyen-Âge, l'approche du son est double parce qu'elle est divisée par deux théoriciens. On a d'un côté Boès qui, lui, justement, va s'intéresser aux intervalles.
C'est quel siècle à peu près, Boès?
Donc, là, on est au 7e siècle, 6e siècle, excusez-moi. Et donc... début 6e siècle, on a vraiment l'Occident a vraiment une traduction en latin de tous finalement les éléments de la théorie grecque sur les intervalles. Et c'est à partir de ça que vont résonner tous les médiévaux, bien sûr.
Et donc alors, ça, c'est Boès.
C'est Boès. Alors le De Musica de Boès, le livre sur la musique, à ne pas confondre avec le De Musica d'Augustin, qui lui, effectivement, ne va pas du tout s'intéresser à la mélodie, bien que c'était son souhait, mais il n'a pas pu le faire. Il va s'intéresser au rythme. Alors finalement, quand on parle du De Musica chez Boès, on s'intéresse à l'harmonie, aux intervalles, ce dont on vient de parler. Et puis un autre pan bien moins connu mais tout aussi important dans la liturgie et dans le chant, c'est le rythme de la parole, qui lui aussi est considéré comme faisant référence à des nombres et évoquant des nombres. Alors concrètement, là, si on prend un mot latin, c'était comme ça qu'a pensé Augustin. Si je dis par exemple Dominus, si je décide vraiment d'appliquer des quantités, des durées à chaque syllabe, do puis mi très court et nous qui fait la moitié de la valeur de la première syllabe, Dominus, là j'évoque de nouveau des nombres, cette fois-ci pas dans le rapport entre les sons, mais dans le rapport de durée entre les syllabes. Et c'est ce que Augustin va expliquer évidemment dans les 6 livres sur la musique. Et le Moyen-Âge est partagé entre ces deux approches du son. C'est pour ça qu'elle est double au Moyen-Âge, cette approche du son.
Ce que vous dites, c'est quand même très, très curieux, très intéressant, parce que ça, si l'on rebondit dans le domaine de la musique contemporaine, la musique d'aujourd'hui, les différentes écoles que l'on a vues naître ces 50 dernières années, au fond, on se rend compte que la prise de conscience des théoriciens du Moyen-Âge, du chant grégorien, le fait qu'un son contient tous les autres sons, le fait qu'il faut faire ressortir l'harmonie intrinsèque contenue dans la mélodie, c'est une idée qui a été reprise par ce qu'on appelle en France l'école spectrale. Des compositeurs comme Gérard Griset, comme Tristan Muraille, qui ont voulu chercher la musique dans le son même, dans l'origine du son même, et qui en effet ont exploré, mais à ce moment-là, avec des outils informatiques, etc., tout le spectre, toutes les harmoniques audibles, mais aussi les harmoniques supérieures, celles qu'on n'entend pas à l'oreille, mais dont l'ensemble crée cette couleur particulière, le timbre d'un instrument.
Oui, c'est ça.
Et ça a donné naissance à toute une tradition harmonique, enfin une école, un style de composition, un langage musical, qui au fond part d'une même prise de conscience, qu'il explore un peu autrement. Dans un cas, on a le grégorien, qui est essentiellement monodique, et on a vu les premiers débuts à deux voix, etc. Et l'école spectrale, qui justement, elle, s'est concentrée sur cette dimension harmonique. Mais comme quoi, on rejoint l'histoire par un biais inattendu.
C'est un éternel retour, mais effectivement, avec une approche différente à chaque fois. C'est ça qui est formidable.
Alors, est-ce que on pourrait entendre de nouveau un extrait de ce disque que vous aviez fait, Frédéric Rentière? Je voudrais juste préciser que vous avez mentionné l'ensemble Vox in Rama, que vous avez donc suscité.
Oui, tout à fait.
Donc vous êtes le chef de chœur et qui donne de nombreux concerts. D'ailleurs, je voudrais signaler un concert prochain, le samedi 24 mars à 20h30 à l'église luthérienne des Billettes.
Oui.
Je crois que vous êtes un grand habitué des lieux.
Oui, tout à fait. Le pasteur Alain Joly nous a reçus il y a maintenant 5 ou 6 années. Et depuis, nous ne cessons de chanter justement le répertoire un répertoire entre les 9e siècle et 14e siècle.
Donc, ce sera un concert, L'amour dans la cité médiévale. Et nous écoutons maintenant la suite de cette mélodie qu'on avait commencé à entendre. Donc, dans le disque Flores Aquitanes, nous écoutons l'ensemble Vox in Rama.
Voilà, donc on a entendu la même mélodie qu'au début de l'émission, toujours le Kyrie cuncti potens genitor, mais cette fois-ci en isone. Qu'est-ce que c'est que l'isone ? C'est un principe de bourdon, justement. Donc une chanteuse chante le son fondamental de la mélodie, puisque c'est une mélodie en mode de ré, donc qui termine par la note ré, donc elle chante pendant toute la mélodie la corde de ré, et une autre chanteuse chante la quinte supérieure, mais une quinte pythagoricienne, c'est-à-dire une quinte qui est vraiment dans la résonance de la note grave, la note ré. Voilà, et donc cette technique extrêmement simple, qu'on a dans beaucoup de musique orale, beaucoup de musique traditionnelle, a été assez courante au IXe siècle et s'est propagée, a existé dans toute l'Europe. Mais en fait, on voit bien que là, il ne s'agit pas d'une polyphonie en tant que telle. On ne peut pas vraiment parler de polyphonie. On peut simplement parler d'une amplification de la résonance harmonique. C'est ni plus ni moins ça. Et c'est vrai que quand j'ai pu expérimenter ça avec Voxinrama, on s'est rendu compte vraiment très vite que la polyphonie n'était pas en fait ce que nous, on entendait par polyphonie aujourd'hui.
Frédéric Rentière, nous parlons du chant grégorien, et en particulier, est-ce qu'on peut chanter le chant grégorien à deux voix ? Mais au fond, on a beaucoup parlé des nombres, on a parlé de la théorie musicale, et on pourrait presque voir une filiation quasi parfaite avec les musiciens de la Grèce antique, qui n'étaient pas chrétiens. Alors quel est justement l'apport théologique, parce que je crois que la réflexion théologique a une grande part dans l'élaboration des techniques musicales, dans évidemment le texte. Comment est-ce que cet aspect-là influe, change, opère des choix ou permet d'opérer des choix ?
Alors, c'est une question très importante, puisque effectivement, pour les chrétiens, il ne s'agissait pas, de cette époque-là, il ne s'agissait pas de réimplanter la musique grecque telle qu'elle était, bien évidemment. Alors, cette harmonie, ces règles harmoniques qui étaient mises en pratique, elles avaient en fait pour but de renforcer la propriété naturelle du texte biblique. Alors ça, c'est vraiment une idée très forte qu'on n'aura pas chez les théoriciens, puisqu'ils ne se sont pas intéressés concrètement à ça. Mais les théologiens, eux, ce qu'on appelle les compilateurs, ceux qui collectaient tous les textes patristiques, eux vont en parler et vont commenter justement cet aspect-là, en disant justement, en parlant de modulatio divinae laudis, le titre du deuxième CD. C'est-à-dire, alors c'est une expression que j'ai reprise de Raban Mor, justement un compilateur du début 9e siècle, qui dit bien que, effectivement, cette modulation des chantres, c'est la modulation de la divine louange. Et qu'est-ce que c'est que la divine louange ? C'est le cœur des anges. Alors là, on est dans une explication symbolique, on n'est plus du tout dans une explication concrète. Mais ce qui est important, c'est que les compilateurs vont insister sur le fait que le texte biblique, à la limite, ne pourrait ne pas être chanté. Mmh. On pourrait très bien le dire. Il aurait déjà un pouvoir, il aurait déjà une vis naturelle. Mais cette vis va être, cette force va être décuplée justement par la résonance harmonique si justement les chantres vont utiliser les bons intervalles, placeront bien leur voix, etc. Donc on voit bien effectivement que dans le culte, l'instrumentalisation de la musique, ça va être justement de renforcer le pouvoir naturel de la parole biblique.
Mmh. Donc au fond, toujours cette idée de l'ordre qui régit la voix biblique, enfin la voix prophétique, et les nombres justement ordonnés de la musique permettent de mieux faire ressortir les nombres et les proportions qui se dégagent de la voix biblique, si je comprends bien.
Exactement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces proportions sont contenues déjà dans le texte biblique ? Alors certains compilateurs vont aller jusqu'à là, vont dire, parce que évidemment, comme il fallait justifier tout par rapport au pouvoir du texte biblique et non par rapport au pouvoir du son lui-même, ils sont allés très loin, ils ont dit qu'effectivement, quand on ouvre un psautier, normalement, on entend déjà le psaltérion de David résonner.
Oui, c'est intéressant de cet enjeu idéologique, quelquefois même artificiel, mais qui permet de féconder une pensée
musicale.
Alors
pour eux, justement, il était naturel. Et ce qu'on considère comme... Et justement, le chant, pour eux, restait un pur artifice. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas que le chant prenne la place du texte biblique.
Ils étaient conscients, en fait, de ce risque.
Exactement, oui. Très conscients.
Oui, je crois que la même problématique existe aujourd'hui dans les églises où... trouver une musique suffisamment belle, suffisamment achevée pour exprimer ce à quoi elle est destinée, mais en même temps être conscient de l'emprise toute puissante qu'elle pourrait exercer sur le cœur des fidèles.
Oui, tout à fait. Oui. Après, c'est la question du concert, finalement.
Oui, la musique intervient.
Très, très vite, la musique liturgique est devenue une musique de concert.
J'aimerais, Frédéric Rentière, signaler, hormis ce concert du 24 mai à l'église des Billettes, aussi les deux disques que vous aviez fait paraître. Flores Aquitanes et puis...
Modula Sua Divina Laudis.
Voilà, deux disques qu'on peut se procurer en allant sur votre site voxinrama.com. voxinrama.com. Frédéric Rentière, merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de la notation du chant grégorien.
Tout à fait. Merci Michel.
Au revoir.
Au revoir.